Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Entre Canal+ et le Festival de Cannes, ce fut pendant 28 ans un mariage de glamour, de stars, d'amour pour le grand écran et d'humour aussi.
Simone Claude pour la Croisette. Bonjour. Alors, Simone, je sais que Philippe là-haut est très très excité à l'idée de vous recevoir.
Ben, ça tombe bien parce que moi je suis tout mouillé.
Un gros plouf pour José Garcia devant la plage du Majestic et qui se finit en flop, le Festival de Cannes a quitté Canal+, un mariage d'amour et un enterrement. Pour la première fois depuis 1993, Cannes ne fera pas son cinéma sur Canal+, mais sur le service public et sur Brut, le réseau des jeunes créé par un ancien de Canal, Lee Van Kim. Mais Canal est loin d'avoir dit adieu au cinéma et aux palmes de Cannes. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Et aujourd'hui, avec Isabelle Lesniak, on va revenir sur la folle histoire d'amour entre Canal+ et le Festival de Cannes.
Festival de Cannes, les films, Catherine Deneuve, Daniel Auteuil, Jeanne Moreau, Barthes Abba, formidable, hein.
Festival de quoi? Vous êtes sûr, Philippe?
Bah oui, hein.
Mais c'est curieux, ça fait des années que je descends à Cannes à cette époque-ci et j'en ai jamais entendu parler de ce festival. C'est quand?
Ben, je crois que c'est en ce moment, hein.
Le Festival de Cannes, c'est en ce moment et c'est même la 75e édition pour un Cannes post-Covid qui va épouser de nouveau la Croisette du 17 au 28 mai. Avec ses milliers de curieux et fans de cinéma, ses 24 marches, ses 60 mètres de tapis rouge, ses 4000 journalistes et ses dizaines de stars avec en invité vedette l'acteur Forrest Whitaker et un président du jury Vincent Lindon récompensé en 2015 pour le film La loi du marché. Mais il y aura un absent de marque cette année, à l'heure notamment de la remise des prix, Canal+. Car la chaîne lancée en 1984 avait tout de suite misé sur le cinéma et s'était naturellement tournée vers Cannes et son festival.
Quand la chaîne se lance en novembre 1984, ses dirigeants ont déjà dans la tête que ce sera une chaîne consacrée au cinéma, donc la première chaîne par abonnement thématique en Europe de ce genre.
Isabelle Lesniak est journaliste aux Échos Weekend.
En fait, ils ont dans la tête le modèle HBO. Et donc, c'est une idée de génie que finalement, si on n'a pas énormément de films, il faut les passer à des heures différentes plusieurs fois pour donner l'idée d'un foisonnement. Alors, HBO fait ça de manière magistrale. Il passe 40 fois le même film pendant 6 mois. Canal+ veut récupérer cet exemple. Mais en fait, il faut absolument avoir des films. Et ce n'est pas facile de négocier des films quand on est une chaîne qui va se lancer. Il faut avoir des bons rapports avec les producteurs. Les producteurs ont tendance à faire monter les prix parce qu'on ne sait pas ce que va devenir Canal+. Et donc, il faut absolument se montrer à Cannes pour essayer de nouer des contacts et essayer de récupérer les films. Donc en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'avant même le lancement de la chaîne, plusieurs mois avant, Canal+ est déjà à Cannes pour essayer de marquer le coup et de montrer que c'est la chaîne du cinéma.
Oui, d'ailleurs, vous racontez une anecdote dans les Échos Weekend. La première rencontre entre Canal et Cannes a presque tourné au film catastrophe.
Oui, c'était un véritable fiasco. Alors, c'est René Bonnel, l'un des fondateurs, qui explique ça très bien et de manière très imagée dans un super livre qui, en fait, c'est un peu ses mémoires de ses années Canal. Ça s'appelle « Mon cinéma format de Cannes à Canal+, donc c'est sorti en 2010, ça date un peu, mais c'est fourmillant d'anecdotes, et donc il y a cette anecdote de l'arrivée à Cannes pendant l'édition 1983. Ils louent le Don Juan, c'est un superbe bateau, ils espèrent faire des déjeuners en grande pompe, mais la météo n'y est pas. Vraiment, il pleut pendant toute la quinzaine, et donc les déjeuners, ça tourne au fiasco, tout le monde veut partir du bateau. Ils avaient aussi des affiches qu'ils avaient préparées pour le lancement de la chaîne, elles se décollent à cause de la pluie, et donc finalement, il y a une blague qui est assez récurrente sur la croisette pendant toute cette quinzaine, c'est que l'an dernier, c'était la lune qui était dans le caniveau, donc c'est là une référence au film de Benex, et cette année, c'est Canal+ qui est dans le caniveau.
Simon, vous me direz, vous voulez dîner ce soir ?
Oh merde! Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes malade en voiture?
Non, non, c'est parce que quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content.
Oui, c'est sûr, le bateau, quand la météo n'est pas bonne, ça peut tanguer et ça peut faire mal à l'estomac. Il faudra attendre 1993 pour que la quatrième chaîne devienne le partenaire média du festival avec la diffusion de la montée des marches, des cérémonies d'ouverture et de clôture et avec des émissions dont nulle part ailleurs. Pour Cannes, Canal avait souvent sorti le grand jeu.
Oui, alors c'était vraiment une déferlante. Certains d'ailleurs avaient renommé le festival de Cannes le festival de Canal. En fait, il y avait jusqu'à 500 personnes qui étaient mobilisées. Certaines descendaient de Paris, ont délocalisé toutes les émissions. Alors, le Grand Journal, Nulle part ailleurs, Le Guignol, ça faisait des moments de télévision absolument invraisemblables. Enfin, tout le monde se souvient de cette génération Sharon Stone qui arrive sur le ponton, qui enlève ses chaussures, accueillie par Antoine Decaune, ou bien Sylvester Stallone qui va saluer sa marionnette des Guignols.
Et je voudrais vous présenter quelqu'un que vous connaissez très bien. Sly !
Salut ! Ouais ! Je suis le double de Sylvester, moi. Body double, c'est moi.
Body double, ça m'étonnerait.
Vous trouvez deux fois plus gros, deux fois plus fort.
On va peut-être mettre après le retour un peu plus fort.
J'ai l'impression de me regarder dans un miroir.
Ouais. Hein, touche pas, sinon, tu vas l'avoir, ta putain de guerre, hein. Ouais, viens te battre, t'es un homme.
Donc, c'est vrai que ça a beaucoup marqué. Alors, il y avait une petite critique. D'ailleurs, Antoine Decaune, encore maintenant, dit que c'était un peu son regret, qu'au départ, nulle part ailleurs, ça devait être un talk show. Et finalement, il, avec cette surenchère, il était devenu plus show que talk. Et donc, c'était devenu un événement à part entière. Mais l'intérêt intrinsèque des interviews, c'était un peu effiloché.
Canal était aussi réputé pour ses fêtes durant le festival.
Oui, alors, c'était vraiment un lieu de fête. En fait, c'était plus difficile de rentrer quelquefois dans les fêtes de Canal+ qu'à la projection des films. Les lieux ont changé, en fait, au gré des différents endroits à la mode, mais le champagne coulait à flot. Alors, René Bonnel, qui est plutôt un universitaire assez sérieux, qui raconte qu'il voulait se coucher à une certaine heure pour être en forme, il a encore les yeux tout écarquillés quand il raconte Sharon Stone, Robert De Niro, le champagne jusqu'à 5 heures du matin. C'était vraiment l'endroit où il fallait être. Alors, là aussi, il y a eu des critiques. En 96, en fait, Libé, à propos de ses fêtes, titrait Canal trop. Trop de fêtes, trop de glamour, trop d'argent dépensé, trop de paillettes, que finalement on avait oublié un peu le cinéma dans l'histoire.
Alors, c'était pas le début de la fin hein, pour dans ces relations entre Canal+ et Cannes. Hein, l'histoire d'amour va durer longtemps, malgré ces unes peut-être un peu assassines de Libération. Mais ces dernières années, on voit quand même que les relations étaient devenues plus tendues entre Canal+ et les organisateurs, notamment depuis l'arrivée de Vincent Bolloré.
Oui, c'est ça. Quand il arrive et qu'il prend le contrôle de la chaîne en 2015, il veut faire un grand ménage financier. Vraiment, il veut apurer les excès de Canal+, et évidemment, Cannes en est un. Alors, il a cette phrase lors de l'Assemblée générale des actionnaires en avril 2016 qui a beaucoup marqué les esprits. Il dit « Évidemment, aller à Cannes en mai, c'est agréable. Il y a la mer, le ciel bleu, le patio et les olives. Alors, quand on dit vous n'irez plus à 469 mais à 50, vous êtes impopulaire. » Et donc, ça résume assez bien son intention. Donc, il arrête les émissions délocalisées. Alors, il y a en fait Laurent Veil, monsieur cinéma de Canal+, qui fait des duplex, mais c'est plus du tout toutes les émissions qui se déroulent depuis Cannes. Il ferme le patio, alors que c'était vraiment le lieu de rendez-vous mythique de toute la profession. Il va le réouvrir plus tard, mais sa première décision, c'était de fermer et d'arrêter cette gabegie. Et puis, pour le grand public, finalement, plus compliqué, Vincent Bolloré n'est pas très intéressé par les émissions en clair. Et donc, tous les contenus qu'on pouvait voir sans être abonné à Canal sur Cannes sont de moins en moins visibles. Et donc, ça donne quand même l'impression d'un désengagement.
Selon le site Les Jours, le budget total alloué par Canal au festival sera réduit en 2016 de 90%. Il était de 6 millions d'euros en 2015. Il va tomber à près de 600 000 euros.
Voilà, on est quand même à Cannes.
The Palme d'Or.
C'est un moment fort. C'est du rêve et on en a besoin.
Malgré cela, en 2016, Canal Plus avait renouvelé son partenariat. France Télé n'avait pas fait d'offre, contrairement à 2021. France Télé qui va empocher donc le morceau. Qu'est-ce qui a changé pour la télévision publique?
Alors, Manuel Alduy explique qu'en fait, c'était très important pour le festival d'avoir plus de visibilité et pour le service public de montrer qu'il était un acteur important sur tous ses supports, en fait. Ce qui est très intéressant dans cette offre que fait actuellement France Télé alliée à Brut, c'est que toutes les émissions, toutes les chaînes se déclinent et respirent le cinéma. Alors, c'est vraiment la fête du cinéphile, enfin, notamment sur Culture Box. Cette semaine, il y avait encore Dancer in the Dark. Il y a plein d'émissions. La grande librairie est thématique.
Culture Box, hein, qui est une chaîne qui a été récemment créée, qui devait être éphémère d'ailleurs et qui finalement a été maintenue en partie grâce à Cannes.
Tout à fait. Elle était jusque-là plus des concerts, des artistes. Et là, maintenant, grâce à Cannes, et c'est le début de sa reconversion en quelque sorte avec Cannes, elle va servir en fait à diffuser des films plus indépendants, enfin ceux qui ne vont pas sur France 2 ou France 3. Et l'offre est juste spectaculaire. Enfin, c'est vraiment difficile de s'en échapper quand on rentre dès le journal en fait, de France 2, dès le JT de 20h. Il y a des pastilles très bien sur Cannes. Et puis après, on peut continuer toute la soirée avec une offre vraiment foisonnante et de qualité, très service public. Donc, c'est ça qui, en fait, était gagnant-gagnant pour les organisateurs du festival et pour France Télé.
Ouais, France Télévisions, hein, comme un bulldozer, finalement, dans ce paysage audiovisuel français. C'est vrai que l'an dernier, moins de 900 000 téléspectateurs avaient suivi la cérémonie de clôture du 74e Festival de Cannes sur Canal+. C'était diffusé en clair, hein. C'était pas que pour les abonnés. C'est peu, c'est aussi une des raisons qui ont poussé les organisateurs du festival à changer de diffuseur.
Oui, ils voulaient plus de visibilité. Alors, Manuel Alduy, donc, qui est le directeur de cinéma de France Télé, explique que s'ils ont gagné, ce n'était pas une histoire de surenchère financière. Alors, ils proposaient quand même plus, puisque allié à Brut, ils proposaient 2 millions d'euros et Canal+, la proposition était en deçà, elle était de 1,75 million. Mais c'est surtout cette visibilité et cette possibilité de toucher de nouveaux publics, notamment grâce à Brut, qui est très jeune et très international, qui a convaincu les dirigeants du festival. Ça semble avoir marché, puisque, en fait, on a eu les audiences de la cérémonie d'ouverture. C'est la meilleure audience, en fait, depuis 2011 pour cette cérémonie. 5 millions de personnes en direct et 10,6 millions de vues sur Brut. Alors, la moitié seulement en France, donc ça aussi, ça permet de toucher des publics étrangers. Bon, ça reste un produit qui est assez niche. Ça n'a pas dopé les audiences du journal d'Anne-Sophie Lapix après. Mais c'est vrai que pour les cinéphiles, ça a bien marché.
Mais pour le Festival de Cannes, hein, c'est un peu un pari gagné, du moins en termes de visibilité. Cannes, Canal, c'est 28 ans d'histoire d'amour plus ou moins mouvementée. Est-ce qu'ils se quittent fâchés?
Alors, officiellement, non. Ben, dans ce milieu, c'est difficile de se fâcher puisque c'est un tout petit milieu et il y aura dans 3 ans le nouveau contrat. Donc, autant rester sur les rangs. En fait, on les sent quand même à la fois déçus. Alors, ils expliquent qu'ils ont renouvelé les Césars pour 4 ans, qu'ils sont partenaires de plein d'autres festivals en France. Donc, leur intérêt pour ce genre de cérémonie est intact. Ils sont un petit peu vexés parce que, en fait, c'est aussi la revanche d'anciens de Canal qui sont maintenant passés à la fois sur France Télé et sur Brut. Alors, sur France Télé, c'est donc Manuel Alduy qui a, en fait, 22 ans de Canal+ derrière lui. Et sur Brut, c'est Renaud Levent-Kim qui, en fait, a été le grand ordonnateur de tous les festivals de Cannes et du grand journal depuis Cannes sur Canal+, qui a été débarqué par Bolloré et qui a créé Brut. Donc, ça sent quand même la revanche.
Mon but n'était pas de t'abandonner, même avec ce que t'as fait, oui je t'ai pardonné, je t'ai pardonné.
Lorsque la peur sera passée, il ne restera que moi.
Votre film box-office. Dune, seulement sur Canal+.
Cannes et Canal+, la page de ce livre d'or est tournée, mais Isabelle, c'est évident, le cinéma reste au cœur de la stratégie de Canal+.
Oui, alors elle l'a donc toujours été, puisque en fait, dès 84, finalement, c'était l'offre cinéma qui avait été mise en avant. C'est après que Canal s'est tourné vers le sport, et notamment donc, les matchs de foot. C'est en 1985 qu'on peut voir les premières diffusions. Ensuite, il y a eu le fameux porno du premier samedi du mois à minuit, ce qui était quelque chose de tout à fait inédit pour la télévision. Aujourd'hui, on a aussi les séries qui peuvent être un motif d'abonnement, mais ça reste quand même en fait une super proposition pour les cinéphiles, d'autant plus que maintenant, par rapport au tout début, il y a des chaînes thématiques, donc on peut y trouver et un peu mieux rangé qu'autrefois ce qu'on recherche, depuis le cinéma indépendant jusqu'à des films d'action. Et il y a même donc en fait des nouvelles chaînes qui se créent. Donc la dernière, ça s'appelle Grand Écran, ça a été lancé en février et ça répertorie en fait les films qu'il faut avoir vus au moins une fois dans sa vie, comme ils le disent avec un slogan assez porteur. Alors c'est aussi pour rappeler aux jeunes que finalement La Môme, Le Parrain, Le Grand Bleu sont des films vraiment cultes qu'il faut avoir vus. Donc il y a vraiment un intérêt très fort de la chaîne pour le cinéma. Ça se traduit aussi par les chiffres. En 30 ans, plus de 5 milliards d'euros ont été investis en cumulé dans plus de 3000 films, à la fois français et européens. Et dans les prochaines années, donc de 2022 à 2024, Canal+ s'est encore engagé à financer le cinéma à hauteur de 200 millions par an. Alors, pour avoir un petit point de comparaison, Netflix, dont on parle beaucoup, c'est 40 millions et OCS, 60 millions. Donc, ça montre quand même l'importance de Canal+ pour le cinéma.
Le cinéma qui a permis à Canal+ de digérer l'arrêt de la diffusion de la Ligue 1 de football. Le groupe compte près de 24 millions d'abonnés, dont 9 millions en France. Pour les films, il s'appuie aussi sur une machine de guerre, c'est le Studio Canal.
Le Studio Canal, c'est la filiale catalogue, production et distribution du groupe. C'est le premier studio européen. Il n'y a qu'aux États-Unis qu'il y a des entités qui sont comparables. Alors, ça a été créé il y a 31 ans, ça a été très très longtemps déficitaire. Et puis aujourd'hui, c'est devenu la pépite du groupe et ça a même le moteur de la croissance du groupe, puisque en 2021, le chiffre d'affaires a progressé de 31,5%. Ils ont eu des super résultats avec des films qui ont très bien marché au box-office, notamment Bac Nord, Boîte Noire, cette année Goliath. Et alors, c'est très intéressant comme structure parce que ça fait à la fois du catalogue, c'est le plus important catalogue d'Europe avec 6500 titres. Ça fait aussi de la production de films frais, donc quelques dizaines par an avec, par exemple, Paddington ou Le Tour du Monde en 80 jours qui ont très, très bien marché à l'international. Et c'est aussi une filiale qui s'occupe de distribution. C'est même devenu le premier distributeur français et le troisième sur le marché français, si on prend les acteurs aussi étrangers, derrière Sony et Warner.
Si elle voyait ça, elle aurait l'impression d'y être enfin.
Tante Paddington.
C'est parfait.
Et Paddington, énorme succès, hein, visiblement, y compris financier. Ça fait beaucoup de bien là, aux finances de Studio Canal et de Canal. Vous le disiez, Canal, ça reste un financeur important du cinéma français. Quels sont les rapports qu'entretiennent aujourd'hui la direction de Canal et le cinéma français ?
Tout le cinéma français a intérêt en fait à ce que Canal+ aille bien. Alors ça, c'est mathématique puisque en fait, dès 1984, dès les origines de la chaîne, a été posé un principe, c'est que Canal+ a les films en première diffusion. C'est donc finalement dans son intérêt, c'est de pouvoir diffuser les films frais avant tout le monde. Mais en contrepartie, il doit reverser 25% de ses revenus d'abonnement et de recettes publicitaires au cinéma. Alors à des films qui sont à 60% européens et à 40% français. Donc, les années où Canal+ allait moins bien, évidemment, la somme qu'il a louée au cinéma français était en baisse. Et maintenant que les résultats sont meilleurs, les sommes peuvent progresser. Donc, il y a un intérêt intrinsèque de toute la profession à ce que Canal+ fasse de bons résultats.
Et vous parliez de l'importance d'être le premier à diffuser certains blockbusters, des films qui marchent, dont on a parlé beaucoup au cinéma. De ce point de vue, Canal a remporté aussi une victoire qui vaut presque toutes les palmes, c'est la réforme de la chronologie des médias.
En fait, Canal+ voulait pouvoir voir passer les films 3 à 4 mois après la salle. Finalement, ils ont obtenu 6 mois. C'est déjà beaucoup mieux qu'autrefois, puisque en fait, au départ, c'était 12 mois et en fait, ça avait été ramené à 8 mois en 2018. Surtout, ce qui est important, c'est qu'ils gardent de l'avance par rapport à Netflix. Ils ont 9 mois d'avance par rapport à Netflix, qui dorénavant pourra en fait passer les films 15 mois en France après leur diffusion en salle. Ça, c'est très important parce que, comme l'explique Maxime Saada, le président du directoire, en fait, Canal+ s'appuie vraiment sur les salles comme un outil de marketing. Donc ça, c'est pas du tout la philosophie de Netflix. Quand un film marche bien en salle et a un très bon bouche à oreille, il y a des chances qu'il ait aussi des très super scores sur Canal+, surtout si on a la mémoire de son succès en salle, puisque évidemment, on peut le voir 6 mois après seulement la diffusion sur grand écran. Ça a été le cas de Bac Nord. On aurait pu imaginer que finalement, il avait fait le plein puisqu'il a fait 2,2 millions d'entrées en salle. Eh bien, pas du tout. Dès sa diffusion sur Canal+, il y a eu 3 millions de visionnages dès les premiers mois. Donc, ça montre que finalement, le film a capitalisé sur son succès en salle.
Je fais ce métier, moi je le fais, je comprends pas pourquoi, je comprends pas comment on en est arrivé là en fait.
Un Canal reste omniprésent, mais certains s'inquiètent tout de même des choix éditoriaux du groupe en matière de financement depuis l'arrivée de Vincent Bolloré. Que répond Canal ?
Alors, j'ai beaucoup entendu parler de ligne éditoriale par les producteurs et évidemment, c'était pas pour en dire du bien. Il y a deux exemples fameux dans la profession où on reproche à Bolloré d'avoir changé en fait cette ligne éditoriale. Alors, c'est le film extraordinaire d'Ozon, Grâce à Dieu. C'était le premier Ozon en fait que Canal+ n'a pas financé et donc Maxime Saada, le président du directoire, reconnaît très franchement que il a eu un sujet avec l'actionnaire sur ce thème qui était donc lié à la pédophilie dans l'église et donc qui n'était pas vraiment dans les valeurs qu'on imagine de Vincent Bolloré. Donc il n'a pas, il a choisi de ne pas le financer pour ne pas avoir de conflit avec son actionnaire. Il le reconnaît. Et l'autre film, c'était En guerre de Stéphane Brisé. Alors les producteurs disent beaucoup, enfin la profession dit que c'était trop anticapitaliste pour Canal. Maxime Saada répond que c'est pas vrai du tout, mais qu'il savait que le film allait se faire par ailleurs et donc que finalement il a passé parce qu'il trouvait que le sujet était trop noir. C'est vrai que Canal+ n'a pas vraiment un droit de vie ou de mort sur les films, mais quand on n'a pas le financement de Canal, ça commence à devenir compliqué. Il y a un cas très actuel, un film qui parle de jeunes qui sont exclus de leur foyer parce qu'ils ont le sida. Alors le titre provisoire, ça s'appelle L'Arche de Noé. Canal+ n'a pas souhaité soutenir, peut-être en raison du thème lié à l'homosexualité, et ils ont le plus grand mal à trouver des financements en ce moment.
Alors peut-être qu'ils feront une campagne de crowdfunding, un financement participatif, c'est possible. Surveillez si le thème vous intéresse, hein, sur Internet notamment. Pour Canal, la revanche de Cannes, ce sera donc de continuer à remporter des palmes ?
Oui, alors ils ont un historique absolument confondant. Donc on se souvient Dancer in the Dark, Le Ruban Blanc, Amour, La Vie d'Adèle et puis l'an dernier Titane. Alors Titane, c'est vraiment un très bon exemple puisque Canal en fait soutient Julia Ducournau, la réalisatrice, depuis le début. Ils avaient soutenu son premier court qui s'appelait Junior et puis son premier long qui avait déjà été assez polémique qui s'appelait Grave, qui avait été sélectionné à Cannes et qui était très dur et donc ça avait marqué les esprits. Cette année, en fait, 21 films soutenus par Canal+ sont en compétition officielle, 10 avec des préachats de Canal+ et un achat en première fenêtre de Ciné+. Donc, il y a toutes les chances qu'ils récupèrent quelques récompenses à la fin.
Le monde est écrit dans une langue incompréhensible. Le cinéma le traduit pour nous, avec des images et des émotions. Sans cette lumière, sans ce langage commun, chacun est dans sa nuit. Chers amis, sortons de cette nuit ensemble et embrassons le monde. Bonsoir à tous et bienvenue au 75e Festival de Cannes.
Un dernier mot, Isabelle, vous avez suivi la cérémonie d'ouverture cette année ?
Oui, tout à fait. L'histoire va évidemment se souvenir de Zelensky, puisque en fait, c'était un moment important dans l'histoire du festival d'avoir un moment aussi politique. Moi, personnellement, je dois vous avouer que je suis une fan inconditionnelle de Vincent Delerme, et donc j'ai évidemment trouvé ça subtil, élégant, sobre, enfin tellement service public.
Et le film présenté à Cannes que vous avez envie de voir ?
Alors, j'ai eu l'occasion de faire l'interview de Nicolas Parizère, qui est le réalisateur de Alice et le maire, donc qui revient en fait à la quinzaine avec un film un peu différent de ce qu'il a fait jusque-là. Ça s'appelle Le Parfum Vert. C'est en fait un meurtre à la Comédie française, et ensuite il nous emmène en Europe de l'Est, à Budapest. Et c'est un réalisateur très intéressant, absolument cinéphile, qui a un ton vraiment singulier à lui. Et je suis vraiment très curieuse de voir à quoi ça peut ressembler une comédie qui est moins politique de sa part.
Merci Isabelle Lesniak, journaliste aux Echos Weekend, pour le film des relations cannoises de Canal+. Vous pouvez retrouver son article complet sur leséchos.fr et dans les Echos Weekend, l'occasion de découvrir que le premier film diffusé sur Canal+ fut L'As des As, sorti 2 ans plus tôt, et énorme succès de Bebel au cinéma avec plus de 5,5 millions d'entrées.
Juif vous êtes ? Juif vous avez ?
Faut mettre l'adjectif à la fin, pas au début. On dit pas juif vous avez l'air, mais vous avez l'air juif. Si je vous dis con vous avez l'air, c'est pas français. C'est juste, mais c'est pas français.
Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming comme Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox, Google Podcast ou encore Spotify. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.